Semaine Sainte 2018.
Semaine Sainte 2018 avec la communauté des Béatitudes.
C'est en voisin qu'il est venu. Éric Pilet est le responsable d'une autre communauté, celle de l'Arche, située à quelques encablures des Béatitudes où nous nous trouvons depuis hier. Résolument ouverte sur la ville de Blagnac, la communauté de l'Arche en pays toulousain accueille 50 personnes en situation de handicap. Elles sont assistées d'une trentaine de salariés. Avec Éric Pilet, partons à la découverte de cette communauté dont le ferment est précisément le partage d'une vie commune. Bonjour Éric Pilet.
Bonjour.
À vos côtés nous a rejoint également Marc Dumont, lui aussi venu en voisin. Bonjour Marc.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes un ancien salarié d'Airbus, un autre point commun que vous avez avec Éric Pilet. Vous êtes à la retraite depuis le début de l'année. Dans quelques minutes, vous nous parlerez d'une autre institution emblématique de Blagnac. Je veux parler de l'aéroport que tout le monde connaît. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la messe s'y déroule deux fois par mois. On en parle tout à l'heure. Éric Pilet. Je l'ai dit, vous êtes le fondateur et responsable de l'Arche en pays toulousain. Vous avez été président de l'Arche France entre 2004 et 2011. C'est une institution que vous connaissez donc parfaitement. Avant d'entrer dans la spécificité de la communauté de Blagnac, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous donner les grandes lignes de l'Arche ?
Oui, bien sûr.
Alors, on fait quelques ajustements du micro.
Voilà. Voilà. Écoutez, l'Arche a été fondée par Jean Vanier, je crois que beaucoup de personnes le savent. Jean Vanier qui s'est engagé auprès de deux personnes avec un handicap mental en 1964. C'était une découverte pour lui, le monde du handicap. Il était professeur de philosophie, il avait été officier de marine. Et il avait été très touché par, très bouleversé, je pourrais dire, par la découverte d'un asile dans le nord de Paris. Et il a décidé vraiment d'engager sa vie auprès des personnes les plus pauvres, les plus humiliées, les plus exclues. Parce qu'à l'époque, les personnes handicapées mentales étaient parmi celles qui étaient le moins reconnues dans notre société. Les choses ont évolué. Pas complètement encore.
Et quelle était son intuition à la fondation de l'Arche ? Que voulait-il pour ces personnes handicapées ?
Je crois que son intuition, surtout lui ne venant pas du monde professionnel, du social ou de l'éducation spécialisée, c'était de se dire que les personnes les plus exclues ont d'abord besoin de relations, ont d'abord besoin d'être vues comme des personnes qui ont de la valeur. D'ailleurs, il dit quelque chose, Jean Vanier, c'est « aimer, c'est révéler la beauté de l'autre ». Et je crois que son intuition, c'était de dire, bien entendu, ces personnes cassées par la vie, ces personnes rejetées, sont d'abord belles. Bien sûr, il avait le regard du chrétien qui cherche dans l'autre, hein, le visage de son frère, et d'une égalité fondamentale, d'une humanité commune fondamentale. Mais voilà, c'était son plus simple à l'époque. Il dit qu'il a démarré par un élan de générosité, mais il a découvert combien cette relation avec Philippe et Raphaël d'abord, et puis plein d'autres après, était fondamentalement transformante pour lui-même.
Ce sont des personnes qui ont quel type de handicap ?
Alors, à l'Arche, les personnes accueillies sont davantage des personnes avec un handicap mental. Hein, vous savez, dans le handicap, vous avez le handicap physique, vous avez le handicap sensoriel, le handicap mental, donc on parle de déficience intellectuelle, et puis on parle aussi maintenant aujourd'hui de handicap psychique, hein, plus proche de la maladie mentale. On va dire que dans les communautés de l'Arche, on accueille essentiellement des personnes avec une déficience intellectuelle, plus ou moins profonde, mais aussi, et de plus en plus, des personnes qui ont un handicap psychique.
Alors, Jean Vanier a eu cette intuition en 1964, disiez-vous. Aujourd'hui, donc ça a beaucoup essaimé, 135 communautés dans le monde.
Oui. Oui, assez vite finalement, après le début de cette fondation, d'autres communautés de l'Arche se sont créées, quelques années après, en France, mais aussi au Canada, en Angleterre et en Inde, très vite. En 1970, une première communauté s'est créée en Inde, et ce qui a donné d'ailleurs très rapidement un caractère interreligieux. à l'Arche, hein, interconfessionnel d'abord parmi les différentes confessions chrétiennes, mais aussi interreligieux avec l'hindouisme, et puis quelques années après, même en terre musulmane.
Hein. Oui, parce que ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est que ce n'est pas une communauté religieuse.
Non.
C'est aconfessionnel, vous me dites si je me trompe. Oui. Pour autant, il y a une inspiration chrétienne très forte.
Tout à fait, il y a une inspiration chrétienne très forte. Il y a en France, par exemple, les communautés de l'Arche sont très liées, hein, à, bien sûr, avec l'Église catholique, sans être, hein, on va dire, un mouvement catholique. Mais nous sommes, je dirais, profondément laïcs. Hein, c'est-à-dire la dimension spirituelle est accueillie, hein, elle est importante, et d'ailleurs cette dimension spirituelle s'adresse à tout le monde, et les personnes qui viennent travailler à l'Arche ou les personnes qui sont accueillies à l'Arche ne le sont pas parce qu'ils seraient chrétiens ou
musulmans. Vous accueillez tout type de,
bien entendu,
tout type de personnes. Alors il y a quelque chose de particulier qui se vit à l'Arche, me disiez-vous lorsque nous avons préparé cet entretien. Ça rejoint d'ailleurs la communauté des Béatitudes où nous nous trouvons, puisque la communauté des Béatitudes fait coexister différents états de vie. Vous aussi, d'une certaine manière, dans la communauté de l'Arche, vous avez une proposition où vous faites cohabiter aussi des personnes, à la fois personnes handicapées et puis des personnes qui viennent les aider. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, nous présentons, j'aime bien nous présenter comme des communautés de personnes avec et sans handicap, hein, qui travaillent et vivent ensemble. Au départ, l'Arche, c'était vraiment des communautés où des personnes avec et sans handicap vivaient ensemble. Donc la notion du foyer, de la vie familiale, où l'on partage une vie toute simple et où on fait famille, quelque part, est importante, et elle perdure. Hein, donc, à Toulouse, ou dans l'ensemble des communautés de l'Arche, il y a des foyers où vivent des personnes avec un handicap et des assistants.
Parce que pour parler de l'Arche en pays toulousain, celle que vous dirigez, dont vous êtes le responsable et que vous avez fondée, et vous accueillez 50 personnes avec un handicap, et ces personnes sont assistées.
C'est ça. Alors, sont assistés, je reprends le terme d'assistant pour laisser entendre dire qu'il y a les assistants et les assistés. Je préfère dans ce terme d'assistant le terme, enfin la définition, hein, qui est d'être à côté d'eux, ouais, hein, d'être avec et d'être témoin. Hein, on assiste à quelque chose, et bien je crois que les assistants ont ce privilège, mais aussi ce rôle d'être témoin de cette vie donnée, de cette joie partagée, des souffrances également qui existent. Hein, les communautés de l'Arche sont des personnes avec un handicap ont souvent des souffrances liées à leur pathologie, mais aussi à leurs accidents de vie, quelquefois aux humiliations qu'ils ont pu connaître, ou aux difficultés de vie, hein, qu'ils connaissent. Et donc les personnes qui les assistent, je suis aussi un assistant,
dont vous faites partie, oui,
sont là pour bien sûr les aider, hein, et les accompagner dans ce chemin de vie. Nous sommes des professionnels, donc il y a évidemment un travail de professionnel, mais nous sommes aussi témoins de beaucoup de choses, et ils nous aident à grandir. Hein, je crois l'Arche, les communautés de l'Arche sont, comme je dis, avec et sans handicap, sont aussi des lieux de croissance humaine pour tout le monde,
et
en particulier aussi, enfin pas en particulier, mais aussi pour les personnes, les assistants qui viennent y travailler.
Et pour les jeunes en service civique que vous accueillez également nombreux.
Oui, alors c'est vrai que c'est aussi une caractéristique intéressante et très riche. Et moi, je suis, en tant que directeur, je suis très émerveillé par le chemin que font beaucoup de ces jeunes qui s'engagent. Chaque année, alors en France, c'est 350, à Toulouse, c'est 10. Chaque année, nous accueillons 10 jeunes du service civique qui viennent pour un an partager la vie des personnes handicapées dans les 3 maisons que nous avons ici à Blagnac.
Et alors justement, à Blagnac, c'est vous qui en êtes à l'origine, en 2006 d'abord pour la création de l'association, en 2012 pour l'ouverture. Cette communauté, vous l'avez vraiment voulu dans la ville, et résolument, ne serait-ce que même dans son architecture, ouverte sur la ville. Pourquoi cette exigence, cette insistance ?
Eh bien, parce que d'abord les communautés de l'Arche en général, hein, sont essaient d'être très en lien avec l'environnement dans lequel elles sont. Nous avons eu beaucoup de chance après, tout de suite après la création en 2006 de l'association, de trouver ce terrain hein, des Dominicaines de Blagnac. C'était en fin 2007, début 2008, sur lequel nous avons pu donc construire les différents locaux et bâtiments et les maisons de vie et puis les locaux de travail qui nous avons. Alors, et ce terrain correspondait parfaitement, hein, je dirais vraiment là, c'est un... Il y a beaucoup de petits signes comme ça.
Un clin d'œil, vous voulez dire ?
Voilà, un clin d'œil, absolument. Donc, c'est un grand privilège d'habiter ce lieu, d'habiter Blagnac. Et ce lieu est effectivement très ouvert. Et nous avons à la fois organisé l'architecture, mais organisé aussi les activités de travail pour choisir des activités qui nous mettaient vraiment en relation avec notre environnement.
En lien avec la ville, en lien avec les habitants de Blagnac, est-ce qu'il s'agissait pour vous de rendre visible le handicap ? Il y a quelque chose de cet ordre-là ?
Alors, je ne dirais pas rendre visible le handicap, je dirais faire se rencontrer, peut-être faire tomber quelques murs d'ignorance. Le handicap mental fait souvent peur quand on ne le connaît pas. Mm-hmm. On voit très bien les réflexes, et que j'ai pu avoir aussi moi au tout début, hein, avoir éventuellement de la gêne, ou se dire, ne pas savoir comment se comporter. Donc, faire tomber les murs d'ignorance, et puis surtout promouvoir, je crois, faire valoir toute la richesse et les talents, hein, des personnes avec handicap à travers leur travail, leur réalisation, mais aussi on parle un peu, c'est peut-être un mot un peu fort, mais pour certains, leur expertise relationnelle et leur capacité de nous aider à être finalement plus simple dans la relation.
Au tribunal, il a vu Jésus. On écoute tout de suite le clin d'œil de Denis Corpé. Et on se retrouve juste après pour rentrer avec vous, Éric Pilet, dans le cœur des activités de l'Arche. Mais tout de suite, le clin d'œil de Denis Corpé.
Le clin d'œil de Denis Corpé.
Bonjour. Vous ai-je dit que j'avais été dans un jury d'assises, tiré au sort pour juger des crimes commis en Haute-Garonne ? Moi qui n'y connais rien, me voici au tribunal pour écouter des experts, des témoins, des avocats, pour me faire une opinion et pour voter en mon âme et conscience de quoi l'accusé est coupable et quelle peine il mérite. C'est passionnant et bouleversant. J'aimerais vous dire maintenant que j'ai vu le Christ dans ce tribunal, sans trahir le secret des délibérations, mais les audiences étaient publiques, alors j'ai même laissé les noms. J'ai vu le Christ dans la victime, bien sûr. Noël, 40 ans, laissé pour mort après avoir été buté à la tête. Le Christ, qui a accepté d'être torturé et battu à mort, pour nous révéler qui est Dieu. Et ce Noël, blessé à l'hôpital, disait encore son amitié pour celui qui l'avait frappé. Bienveillance et pardon, malgré tout. J'ai vu Jésus aussi en Christian, l'accusé. Christian, je le vois pleurer à chaudes larmes devant l'état de sa victime. Il a pitié, trop tard, hélas. Mais sa compassion n'est pas feinte et elle nous fend le cœur. Son histoire personnelle aussi nous fend le cœur. Toute son enfance battue par ses beaux-pères. Et Thierry, demi-frère de la victime. Noël, il ne le voyait guère avant. Maintenant, il l'a pris chez lui et s'en occupe avec dévouement. Personne n'en voulait, alors fallait bien que je le prenne. La charité, la fraternité. Et Géraldine, capitaine de police, d'astreinte cette nuit-là. Réveillée à 1h du matin, elle est restée enquêter sur place et interroger les témoins jusqu'au jour. Pas génial comme nuit, mais c'est son boulot. Elle le fait avec conscience et rigueur, pour le bien commun. Et Emmanuelle, l'avocate de la défense, commise d'office. Pas facile à plaider ce cas. Comment défendre Christian qui clame qu'il est responsable de tout ? Mais en chaque homme, il y a quelque chose à sauver, c'est ce qu'elle nous dit. Emmanuelle se bat pour qu'on voit l'homme derrière la bête, pour qu'on apprécie sa franchise, sa compassion, son humanité. En elle, c'est l'espérance qui parle. Enfin, le procès lui-même. Œuvre collective, bien orchestrée, organisée pour dire le droit, pour maintenir la justice. L'état de droit contre la loi du plus fort, qui empêche l'arbitraire des puissants. Et ça, Seigneur, c'est bien ta manière de faire. Inspirer aux hommes d'agir ensemble vers le bien et la justice. Justice pas parfaite, mais en construction grâce à toi.
« En ce vendredi saint, jour où le tribunal des hommes a crucifié Jésus, ces mots de Denis Corpet prennent une résonance toute particulière. Il nous faut entrer dans le mystère que nous vivons aujourd'hui. Éric Pilet, avant d'entrer dans votre mystère à vous et sur les raisons qui vous ont poussé à reprendre, fonder l'Arche en Pays Toulousain, présentez-nous ces activités foisonnantes de votre communauté, très présente sur la ville de Blagnac. Vous avez une boutique, par exemple. Dites-nous-en un petit peu plus.
Alors, comme je le disais, le projet, initialement, donc, nous l'avons créé avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de personnes, pour être très ouvert sur la ville et puis permettre de mettre en valeur le travail et les compétences des personnes avec un handicap. Donc nous avons deux structures. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais un foyer de vie, un ESAT. Un ESAT, ce sont des établissements financés par l'État qui permettent à des travailleurs handicapés de mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Donc dans notre ESAT, qui est le plus petit ESAT de la région, nous avons 30 travailleurs. Nous avons trois activités. La première, c'est celle qui est sans doute la plus connue et qui est aussi très riche sur Blagnac, puisque nous avons une exploitation de maraîchage bio. Ouais. Nous cultivons les légumes, nous les plantons, nous les récoltons, nous en prenons soin, et puis nous les vendons donc dans notre boutique qui est
où tout Blagnacais peut venir acheter ses légumes.
Tout Blagnacais absolument vient, et où beaucoup de Blagnacais viennent acheter leurs légumes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 16h. Et puis nous faisons aussi deux marchés sur Blagnac, le marché du riz touré le mercredi après-midi et maintenant le marché des ramiers le samedi matin. Et ceci est évidemment une belle occasion de se faire connaître, mais fait surtout d'entrer en relation avec les citoyennes de Blagnac. Mmh. Nous avons un restaurant qui est préparé, ou les repas, un restaurant qui a d'ailleurs un label bio, nous fait manger, nous, on va dire, les salariés et personnes accueillies.
Votre cantine ?
Mais c'est notre cantine, voilà. Mais on essaie d'en faire un petit peu plus qu'une cantine. C'est-à-dire que d'abord, bien sûr, on y mange bien, c'est une cuisine familiale. Mais on accueille aussi des invités extérieurs, des personnes qui peuvent venir et pousser la porte à partir de 12h30. Et nous accueillons aussi, et ça c'est un point important, parce que Blagnac est une ville très dynamique sur le plan économique. Et donc nous sommes très en lien avec les entreprises. Nous sommes un acteur économique d'une certaine manière de Blagnac.
Comment réagissent vos clients, ceux qui viennent acheter vos légumes, ceux qui viennent au restaurant? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez envie de mettre ces personnes de la ville de Blagnac en marche, enfin mettre la personne en face d'une personne handicapée en marche. Est-ce que c'est couronné de succès? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent?
Je crois, oui, on a beaucoup de gens sont fidèles et reviennent, que ce soit au restaurant ou dans notre boutique ou au marché, et disent à la fois, bon, vous savez, s'ils reviennent, c'est d'abord qu'ils trouvent qu'on y mange bien et que les légumes ou que les produits que nous vendons sont bons. Donc c'est pas d'abord, ils viennent pas d'abord acheter parce qu'ils sont généreux et ils veulent aider les personnes avec un handicap. C'est peut-être le premier réflexe qu'ils peuvent avoir. Mais après, s'ils reviennent, c'est qu'ils y trouvent à la fois des produits et des prestations de qualité, mais aussi, je crois, une certaine ambiance, une certaine atmosphère et une vraie chaleur, je crois, dans la relation humaine. Et voilà, je crois.
Vous-même, le temps file très vite en votre compagnie, mais dites-nous un mot sur votre engagement à vous auprès de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles vous apprennent, les personnes handicapées? Vous me disiez qu'il y avait quelque chose qui ramenait à l'essentiel de la relation.
Je crois que j'ai eu une carrière dans l'entreprise. On est dans le monde et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait dans l'entreprise. Je suis engagé dans l'Arche depuis très longtemps, depuis que je suis étudiant. Et mon choix de créer et d'être aujourd'hui à temps plein à l'Arche est lié au fait que ça a beaucoup de sens dans ma vie, bien sûr, mais je crois que c'est quelque chose qui, comme je le disais, me fait grandir. J'ai l'impression, à l'Arche, d'unifier ma vie, à la fois sur le plan personnel, professionnel, parce que il y a quelque chose de très intéressant dans cette dimension médico-sociale également, mais aussi spirituelle. L'Arche, dans ma vie, en tant qu'étudiant, a compté beaucoup dans ma conversion, et ma conversion, ou en tout cas ma compréhension d'un Jésus qui m'aimait, qui était quelqu'un qui était à ma porte, qui frappait humblement, d'un Jésus vulnérable, proche des pauvres et proche de ma pauvreté, c'est quelque chose qui, alors, qu'on n'a jamais fini de découvrir et on n'a jamais fini de, je crois, de découvrir et de toucher à sa à pauvreté, mais c'est quelque chose qui, est, qui me touche beaucoup. Avec les personnes avec un handicap, elles nous aident et elles m'aident, je crois, à me simplifier, à jouer moins avec les masques, les protections.
Elle révèle votre part d'enfant, me disiez-vous aussi.
Oui, et alors, oui, c'est vrai que ma part d'enfant est très sollicitée au cours de ces journées, parce qu'on rit beaucoup. Il y a des choses qui sont très drôles. Il y a beaucoup de joie spontanée. Je crois que la spontanéité est aussi un élément très important de notre vie à l'Arche. L'autre jour, il y avait une personne handicapée qui disait à une bénévole « Mais regarde-moi avec tes vrais yeux. » Vous voyez, il y a plein de petites phrases comme ça.
C'était quoi les vrais yeux?
Je ne sais pas. C'est un peu le mystère de ces phrases. Ou bien quelqu'un d'autre qui nous disait après une réunion autour de psychologues, etc. J'aimerais entendre ce que vous n'avez pas dit. Vous voyez, il y a des phrases comme ça d'une profondeur qui sont très touchantes, mais qui expriment aussi une richesse incroyable.
Et alors, dans sa chronique, Denis Corpet évoquait le Christ qu'il voyait dans les petits. Vous le voyez probablement aussi dans ces personnes, le Christ ?
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, j'essaye. Ouais. J'essaye. Je crois que le Christ est... vous savez, il y a la prière de l'Arche qui finit par « Seigneur, bénis-nous dans la main de tes pauvres. Hein, Seigneur... je ne m'en rappelle plus trop, mais bon, voilà, enfin, qui est, où effectivement, les personnes avec un handicap, je crois que ce sont des frères, d'abord, en Christ, des frères et sœurs, et en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de les
percevoir.
Voir.
Merci
et
beaucoup.
Et elles me disent aussi en quoi je suis aussi, j'essaie d'être leur frère.
Merci beaucoup, Éric Pilet, pour votre témoignage. Vous êtes le fondateur et responsable de l'Arche en Pays Toulousain. Vous nous parliez d'unifier votre vie. C'est aussi probablement le sens de l'Eucharistie qui est proposé deux fois par mois au sein d'un autre lieu emblématique de la ville de Blagnac. Il s'agit de l'aéroport. On en parle avec vous, Marc Dumont. Vous êtes un ancien salarié d'Airbus, un autre lien avec Éric Pilet. Et vous avez assuré la coordination de ces messes. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous un petit peu quelle expérience il se vit dans ce lieu tumultueux, donc qui voit passer 8 millions de passagers par an, et au milieu de ça, l'Eucharistie. Étonnant.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, merci de m'inviter sur votre plateau pour venir vous parler de cette messe de l'aéroport. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, en effet, nous avons la chance de pouvoir participer chaque premier et troisième mercredi du mois à une messe qui a lieu à 12h30 au centre spirituel de l'aéroport, qui se situe au troisième étage du hall C, et qui est célébré par le prêtre en charge de la paroisse de Blagnac, qui est actuellement le père Dominique Guilhem, mais à côté de moi, j'ai le père Michel, qui a eu souvent l'occasion de venir célébrer à l'aéroport.
Et qui sont les participants à ces messes ?
D'abord, je voudrais dire que cette messe, elle existe depuis longtemps.
Ouais.
Moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite Blagnac, j'ai toujours connu cette messe.
Ouais.
Autrefois, elle était célébrée le premier vendredi du mois. Maintenant, le premier mercredi, c'est un gros avantage, parce que le mercredi offre cet avantage d'avoir une pause spirituelle au milieu de la semaine. Et en plus, la messe est à 12h30, donc c'est au milieu de la journée. Et c'est important de pouvoir prendre un temps de recueillement et de partage en s'éloignant quelques instants du monde professionnel.
Et ce sont les...
toujours en mouvement.
Ce sont les personnels de l'aéroport qui viennent
Alors, la messe, elle est ouverte à tout le monde, comme toute messe. Hein, et certains paroissiens de Blagnac qui participent. Mais il est vrai que les principaux habitués sont des gens qui évoluent dans le monde aéronautique. Alors, beaucoup sont des employés d'Airbus.
Bien sûr.
Certains sont des employés de l'aéroport. D'autres, des entreprises du domaine aéronautique. Voilà. Mais... ce sont des habitués qui reviennent régulièrement et petit à petit, une communauté s'est formée, si vous voulez.
Est-ce que vous avez des voyageurs angoissés à l'idée de prendre l'avion qui viennent faire un signe de croix vite fait dans la chapelle ?
Ça, je n'en ai pas encore vu, mais peut-être que ça existe. La chapelle n'est pas ouverte tout le temps. Pour y avoir accès, il faut aller chercher la clé à l'accueil au rez-de-chaussée. Donc, je ne suis pas certain que tous les passagers savent qu'il
D'accord,
y a un centre
spirituel.
D'accord,
elle n'est pas signalisée.
Ouais. Elle est peu signalisée. On pourrait faire mieux, effectivement, de ce point de vue-là.
Mais et pour vous qui vous y retrouvez, donc il y a une petite, on peut parler aussi de communauté, de salariés d'Airbus, de personnel de l'aéroport. Vous vous retrouvez, c'est une respiration au milieu de ce tumulte. Pour quelle raison vous y trouvez un réconfort? Enfin, vous y allez régulièrement depuis presque 30 ans.
Mais d'abord, c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul en milieu professionnel. Nous sommes dans une entreprise immense, hein, nous sommes plusieurs dizaines de milliers. Eh bien, quand on se retrouve ensemble, on se dit, bon, finalement, je ne suis pas le seul à porter ma foi, à témoigner de ma foi au milieu de cet environnement professionnel. Et d'autre part, si vous voulez, il y a ce mouvement de porter le Christ vers les autres, vers les collègues, mais également, cette messe, c'est l'occasion de venir offrir à Dieu ces milliers d'heures de travail quotidiennes consacrées à développer, produire, mettre en vol des avions qui sont un produit noble et beau auquel on adhère et pour lequel on rend grâce à Dieu aussi. Voyez, donc il y a ce double mouvement.
Une façon de se rebrancher.
Que nous permet cette messe.
Une façon de se rebrancher sur l'essentiel. Un grand merci Marc Dumont pour votre témoignage. Merci beaucoup à vous Éric Pilet d'être venu nous présenter l'Arche en Pays Toulousain. Je vais rendre la parole à Rémi qui est dans les studios toulousains pour donner et rentrer progressivement dans le mystère que nous vivons aujourd'hui du Vendredi Saint dont va nous parler Emmanuel Pellat. Merci beaucoup.